Radio Kapi. Oh, Kapi.
Lancement officiel hier à Kalemie dans le Tanganyika par l'UNICEF en partenariat avec Caritas Développement d'un projet de protection et de réintégration communautaire de 60 000 enfants vulnérables. Il s'agit des enfants affectés par des conflits armés et des violences intercommunautaires. Le Congo n'émeut personne, cette interrogation est le titre du nouveau rapport que vient de publier Amnesty International à l'occasion de la 25e commémoration de la guerre de 6 jours à Kisangani. L'invité de ce journal s'appelle Dr. Franck Mebwa. Il est le chargé des opérations d'urgence à la division provinciale de la santé de la Tchopo. Il va parler de l'épidémie de choléra qui fait des morts dans quelques zones de santé de la ville de Kisangani et dans quelques entités sanitaires de la province de la Tchopo. Bonjour à tous. L'UNICEF, en partenariat avec Caritas Développement, a lancé officiellement hier à Kalemie un projet ambitieux de protection et de réintégration communautaire de 60 000 enfants vulnérables. Il s'agit des enfants affectés par des conflits armés et des violences intercommunautaires. Leur réintégration communautaire va se faire dans les territoires de Kalemie et de Nyunzu. Le point avec Paula Munanga.
Ce projet d'une durée de 19 mois s'étendra jusqu'en décembre 2026 dans les zones de santé de Kalemie, Nyemba et Nyunzu, dont 200 enfants sortis de groupes armés et 3000 adolescents victimes de violences sexuelles et de grossesses précoces. Il vise à briser les barrières sociales et à faciliter l'acceptation des enfants dans leur communauté d'origine. Il s'agit de leur offrir une seconde chance à travers la scolarisation, l'accompagnement psychosocial et l'encadrement dans des espaces sûrs, explique le chef de projet à la Caritas, Bernard Kalonda. Ce projet prévoit notamment la réinsertion scolaire des enfants sortis des groupes armés, ainsi que la création d'un environnement sécurisé pour les adolescents à risque. Il illustre l'engagement conjoint du gouvernement congolais et de son partenaire UNICEF à répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant, sans distinction des situations, des lieux de résidence ou des conditions de vie. Signalons que ce projet bénéficie du soutien financier du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, PBF. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Des nouveaux projets sont aussi mis en place cette fois par le CICR dans la province du Sud Kivu. Le comité international de la Croix-Rouge mène ses projets à Kalehe dans le domaine de la santé pour faciliter la prise en charge gratuite d'environ 70 000 personnes. Les enfants des 0 à 15 ans constituent la cible privilégiée de ce projet qui touche 4 structures de santé à Bushushu, Niabibwe et Numbi affectées par les conflits armés entre le M23 allié au Rwanda et les FRDC soutenus par les Wazalendo. Bleshindani Kambala.
Ce projet d'urgence va durer 3 mois selon leur initiateur, le CICR, qui envisage la distribution gratuite des médicaments aux centres de santé et hospitaliers pour assurer la prise en charge des personnes blessées par armes, des femmes enceintes, des indigents ainsi que des enfants non accompagnés. L'infirmier titulaire du centre de santé de Bushushu, Honoré Lemera, s'est réjoui de l'avènement de ce projet qui, selon lui, tombe à point nommé.
Nous n'avons pas de microscope, nous n'avons pas de casserole à pression, tous les biens matériels et médicaux étaient saccagés et donc il y a eu des pathologies courantes qui se sont aggravées, et notamment le paludisme, il y a aussi les infections respiratoires et tout, des diarrhées simples dont la prise en charge a été plus difficile. Nécessairement, avec l'apparition du partenaire CICR, c'est un soulagement pour la population, c'est déjà un pas d'avance pour la structure.
Le CICR donne non seulement des médicaments, mais il appuie également les structures sanitaires de Calais à pouvoir fonctionner. Le comité international de la Croix-Rouge prend en charge également le personnel de ces 4 structures ciblées. Patrick Makengo, officier santé du CICR, sous délégation du Sud Kivu.
Les structures de santé fonctionnaient difficilement avec tout ce qui s'est passé dans la zone affectée par les conflits. Beaucoup de personnes affectées par les conflits, notamment des déplacés internes, des retournés et aussi beaucoup de blessés par armes, des victimes de violences sexuelles et un nombre important d'enfants séparés de leurs familles. Alors, le CICR avait proposé d'apporter une réponse d'urgence.
Les familles déplacées de Goma, Bukavu et leurs environs traversent les conditions difficiles dans leur milieu de refuge à Kinshasa, Beni, Bunia, Kalemie et dans les pays voisins, notamment à Bujumbura, Kampala et Tanzanie. Certains d'entre eux ont exprimé leur ras-le-bol hier mercredi au cours des consultations entre les forces sociales du Grand Kivu. Cette rencontre initiée par les communautés des zones occupées par la rébellion ainsi que par les chefs traditionnels du Grand Kivu était consacré à l'évaluation de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC et aux mécanismes en cours pour restaurer la paix. Occasion pour les fils et filles du Kivu d'appeler l'ancien président Joseph Kabila à revenir à la raison et à privilégier le dialogue interne pour trouver une solution au retour de la paix dans la partie orientale du pays. Le Congo, ça ne meut personne. Cette interrogation est le titre du nouveau rapport que vient de publier Amnesty International à l'occasion de la 25e commémoration de la guerre de 6 jours à Kisangani. Dans ce rapport, l'ONG internationale s'interroge sur le manque de justice, de vérité et des réparations que la plupart des victimes attendent toujours 25 ans après la guerre. Jeff Ngoy.
Le rapport d'Amnesty International montre qu'il n'y a pas eu une seule enquête criminelle ni un seul procès depuis le conflit sanglant entre les forces rwandaises et ougandaises. Les tribunaux congolais n'ayant pas engagé de procédure en justice et la Cour pénale internationale n'étant pas compétente pour les crimes commis en RDC avant 2002, les personnes soupçonnées de porter une responsabilité pénale dans ces crimes n'ont jamais été poursuivies ni punies. Il est absolument inacceptable que pendant 25 ans, pas une seule personne n'ait été amenée à répondre des crimes perpétrés, pas une, déclare Tigera Chaguta, directeur régional d'Amnesty pour l'Afrique de l'Est et Austral. En 2022, la Cour internationale de justice a ordonné à l'Ouganda de verser des réparations à l'issue d'une procédure engagée par la RDC contre l'Ouganda et le Rwanda. La CIJ n'était pas compétente à l'égard du Rwanda. En 2024, des victimes ont enfin commencé à recevoir une indemnisation. Mais le processus a été entaché par des allégations de mauvaise gestion et de détournement, selon Amnesty.
Et sur place à Kisangani, la ville est en proie à l'insécurité urbaine. Le député national Théovel Lotika se dit vivement préoccupé par de cas à répétition, des tueries, d'exactions, de cambriolages et de vols à main armée. Une préoccupation partagée au cours de la plénière d'hier mercredi à l'Assemblée nationale dans une question d'actualité. L'élu de Kisangani justifie cette insécurité notamment par la surmilitarisation de la ville, le phénomène non maîtrisé des Wazalendo ainsi que la prolifération des armes légères dans la ville. Théovel Lotika plaide pour le renforcement des effectifs policiers, le désarmement des militaires cantonnés au camp à Baouma et l'identification et le cantonnement des militaires déserteurs. Théovel Lotika est au micro de Michel Kifindangoy.
Autrefois réputée ville de paix et de tranquillité, aujourd'hui la ville de Kisangani est devenue un grand Far West, disons un véritable Cafarnaüm, car il ne se passe pas un jour sans qu'on enregistre des cas de tuerie et de vol à main armée. D'ailleurs, les cas les plus flagrants remontent à la nuit du mardi au mercredi. Les causes de cette insécurité grandissante restent tout d'abord la surmilitarisation de la ville, la présence importante des militaires désertaires, les phénomènes non maîtrisés Wazalendo dans la ville de Kisangani. Nous recommandons tout d'abord, premièrement, au ministre de la Défense de désarmer les militaires cantonnés au camp Baouma en attendant leur affectation dans les zones opérationnelles, l'identification et le cantonnement des militaires désertaires, et aussi pourquoi ne pas lancer l'opération Ndobo à l'instar de la ville province de Kinshasa.
En plus bref, au Nord Kivu, au moins une dizaine de jeunes assimilés aux militaires FARDC ou aux Wazalendo sont entre les mains du M23. Ils font partie d'une centaine de personnes interpellées lors d'une opération de bouclage menée par le M23 hier à Sake, dans le groupement Camerounza, à territoire de Masisi. Selon plusieurs sources concordantes, l'opération a ciblé entre autres les quartiers Bikali, Virunga, Ndolero et Kimoza Braza dans cette commune rurale. Alors que plus de la moitié d'entre ces interpellés ont été relâchées après un contrôle d'identité, 15 personnes ont été transférées de force à Goma où elles seraient en détention dans un des cachots de la branche armée du M23. Ce mouvement a par ailleurs ordonné la fermeture de toutes les cabanes jugées illégales à Sake, appelant la population à dénoncer toute personne suspectée de posséder une arme dans la zone. Et puis en Ituri, une nouvelle attaque attribuée à la milice Codeco a fait dans la nuit de mercredi au moins 6 morts dans le village de Chocho, à environ 35 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou. Parmi les victimes, il y a 4 femmes et un enfant, indiquent des sources concordantes. Elles déplorent le regain d'insécurité depuis un mois dans cette province qui a déjà fait 15 morts en l'espace d'une semaine. Le bourgmestre de la commune de Barumbu, ici à Kinshasa, Christophe Lomami, réclame justice contre les militaires de la force navale qui l'ont agressé et séquestré, ainsi que ses gardes du corps. Cet incident s'est passé hier pendant que cette autorité municipale en tournée d'inspection a ordonné l'arrêt des travaux d'un hangar sur la chaussée, une voie publique, en face de la régie des voies aériennes RVA, non loin de l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA. Christophe Lomami exige que les militaires auteurs de cet acte en répondent devant les instances compétentes. Christophe Lomami est joint par Blaise Ndongala Mayanda.
Au niveau de force navale, nous avons une forme de trois voies à cet espace-là. La force navale a fermé l'une des voies où ni un piéton, ni un vélo, une moto, un véhicule ne peut pas passer sur cette voie-là. Ils sont en train de construire un hangar où la commune n'est pas saisie. Je suis passé et j'ai dit même à ces militaires-là d'arrêter d'abord les travaux. Le temps pour moi de rencontrer le général. Mais les militaires en tenue qui étaient à côté, mon frère, je vous dis que j'étais humilié. Ces militaires-là m'ont pris comme un petit enfant. Ils m'ont tenu sur le corps et m'introduire jusqu'à ce que dans leur parcelle, en fermant même la porte. Les policiers qui étaient avec moi, sa tenue officielle a été déchirée par ces militaires-là. Mon policier a perdu son téléphone et baïonnette qu'il avait. Moi, je suis à Barumbu. Je représente le chef de l'État dans cette commune. Et voilà comment j'étais humilié. Il faut que les militaires qui m'ont traité de cette manière-là soient sanctionnés.
Le général-major de la force navale Albert Kouyandi Emedi promet de réagir plus tard sur ce comportement des soldats placés sous sa responsabilité.
Actualité internationale.
Au Mozambique, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader dans le nord. Les attaques des groupes armés repartent à la hausse 4 ans après la chute de Pemba dans les mains du groupe État islamique. D'après l'ONG ACLED, plus de 6 000 personnes sont mortes dans le conflit depuis 2017. Fin mai, une trentaine de soldats mozambicains ont également été tués. L'UNICEF s'inquiète particulièrement pour la situation des enfants. Les raptes et les enlèvements sont fréquents selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance.
L'invité.
L'invité de Radio Okapi ce midi, c'est Dr. Franck Mébois. Il est le chargé des opérations d'urgence à la division provinciale de la santé de la Tchopo. Il parle de l'épidémie de choléra qui fait des morts dans quelques zones de santé de la ville de Kisangani et dans quelques entités sanitaires de la province de la Tchopo. Dr. Franck Mébois s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Dr. Franck Mébois, bonjour.
Bonjour.
Quel message avez-vous voulu partager avec les journalistes au cours de ce briefing sur le choléra?
Il était question de parler avec les journalistes par rapport aux incidents qui sévissent dans la Tchopo, notamment la M-Box d'un côté et le choléra de l'autre côté. Alors, avec les deux pathologies, c'est plus le choléra qui sévit de manière épidémique et qui a beaucoup de cas par rapport à la M-Box ici en ville. C'est comme ça qu'on a essayé de s'entretenir pour parler exclusivement de c'est quoi les choléras, comment ça s'attrape et quelles sont les mesures de prévention, où est-ce qu'on peut les soigner.
Quelle est l'ampleur de cette maladie à Kisangani? On sait qu'il y a quelques cas qui ont été rapportés, comme vous l'avez dit.
Oui, il y a des chiffres qui montrent qu'il y a beaucoup de cas, plusieurs cas ici en ville. Mais nous pouvons dire qu'il y a 3 zones de santé qui notifient ces cas-là. Il y a la zone de santé de Makiso Kisangani, qui prend à la fois la commune de Kisangani et la commune de Makiso. Il y a aussi la commune de Lubunga, qui prend pratiquement la zone de santé de Lubunga. Et aussi la commune de Kabondo. Alors, les cas positifs, on les a à Lubunga et à Makiso Kisangani, où il y a des cas positifs par rapport à ces cas de choléra.
Vous avez quand même des statistiques?
Bien sûr, on a quelques statistiques en termes de nombre de cas total jusqu'à la 21e semaine. Nous sommes en train de récolter les données de la 22e semaine. Nous avons enregistré 1639 cas avec 134 décès. Ça, c'est le total pour toute la province. Il y a 3 zones de santé qui ont notifié des cas ici en ville. Il y a la zone de santé de Makiso Kisangani qui a 122 cas dont on déplore 2 décès. Et il y a la zone de santé de Lubunga qui a notifié 105 cas avec 5 décès. Il y a aussi la zone de santé de Kabondo qui a notifié 1 cas sans décès. Nous avons un total de 228 cas notifiés au niveau de la ville.
Et comment on attrape les choléras?
Les choléras, ça s'attrape par l'injection de tout ce qu'il y a comme aliments ou de l'eau contaminée par les vibrio cholérae. Donc il faut d'abord avoir la présence de vibrio cholérae qui est l'agent principal causale de choléra. Ensuite, si on consomme la nourriture qui n'est pas propre et donc contaminée par les vibrio choléra, ou consomme de l'eau qui n'est pas bien traitée avec le chlore, avec les produits chlorés.
Et comment on peut l'éviter?
On l'évite effectivement en consommant des aliments propres, des aliments d'abord chauds. On doit se laver les mains, qui est une mesure vraiment efficace. On doit aussi veiller à ce qu'on ait des latrines hygiéniques, des latrines propres, ça peut beaucoup aider. Surtout, il faut se faire vacciner. Les vaccins contre le choléra est efficace. C'est simple, mais c'est efficace, ça réduit l'incidence de choléra dans la communauté.
Au cas où une personne serait atteinte, quelles dispositions doit-on prendre?
Il y a deux dispositions. La première, ça dépend du niveau de désertation, comme on dit. S'il est au plan A, en fonction du niveau de désertation, il peut juste prendre le SRO. Donc ça peut se faire soit au niveau du centre qu'il a, le sérum oral, le sérum de réhydratation orale. Et ça peut se faire soit au niveau du centre de santé qu'il a notifié, soit on les transfère au niveau des centres beaucoup plus spécialisés qu'on appelle les centres de traitement des cas de choléra, CTC. Donc ça se trouve pour la ville ici, ça se trouve au niveau de Makiso-Kisangani, HGR Makiso-Kisangani, à côté de l'ISTEM. Là, on peut prendre en charge tous les plans. Donc si on est au plan A, donc on ne vomit pas beaucoup, on ne fait pas beaucoup de sel, on peut juste prendre des sérums de réhydratation orale. Mais si on n'est pas en mesure de prendre ces produits-là, là il faut maintenant il faut perfuser et donc il faut s'amener au niveau du centre de traitement des épidémies. Comme je l'ai dit, c'est au niveau de Makiso-Kisangani, entre la morgue et l'ISTEM Kisangani. Et là, on va prendre efficacement.
Ce briefing, vous venez de le réaliser ici au bureau de l'UNICEF Kisangani. Quelle est la contribution de cet organisme onusien dans la lutte contre le choléra?
Actuellement, UNICEF prend en charge de manière holistique. D'abord, les cas au niveau des centres de traitement des épidémies, mais aussi avec des actions communautaires. Sensibilisation, surveillance à base communautaire, désinfection, décontamination. Tout ça, ça sera pris en charge.
Docteur Franck Mebois, merci.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes.
Et c'est par ici que prend fin ce journal, mis en onde par Mimi Kindou et présenté par Noéla Luzetou Kabambi, le tout sous la coordination de Élisée Chikota et la supervision de Martin Sebujangwe.